entendu, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Daniel Herrero, enfant d'Ovalie, incontestablement citoyen du monde, probablement.
Premier épisode, un enfant de Toulon. Herrero, c'est un nom mythique dans le monde du rugby en général et à Toulon en particulier. Daniel, fils et frère du même nom, car jusqu'à il y a peu, c'était quand même un monde d'hommes. Daniel donc fut joueur, puis entraîneur au rugby club toulonnais dans les années 80 et 90, années au cours desquelles l'équipe est devenue championne de France. Personnalité ultra charismatique de la planète Ovalie, comme il appelle avec le grand philosophe Michel Serres le monde du rugby, Daniel Herrero voit la vie en grand. Et de fait, tout est grand chez lui. Grand rugbyman, et pas seulement par son 1m88, grand entraîneur, il fut aussi un grand éducateur, en prison et en foyer, un grand enseignant et aujourd'hui un grand commentateur. Par ailleurs, il est une grande gueule et une grande plume au service de l'Ovalie, le petit nom qu'on donne donc au monde de la balle ovale, auquel il a consacré un dictionnaire amoureux paru chez Plon. Mais il n'est pas qu'amoureux du rugby et de dames ovales. Il l'est aussi des voyages, une passion qu'il raconte dans des livres inspirés, comme Partir, éloge de la bougeotte, à la table ronde, ou La Trappe-rêve, aux éditions des Équateurs, au point qu'on le surnomme souvent le poète de l'Ovalie. Daniel Herrero, bonsoir.
Señorita, bonsoir, bonjour à tous, merci de votre invitation.
Ça vous va bien, le poète de l'Ovalie ?
Ben, j'aurais une sensation très gratifiante, tu vois, de la tonalité de ces deux mots. Il m'arrive dessus comme quelque chose d'assez émouvant, je l'avoue. J'aurais assez rapidement, derrière l'émotion, un peu la sensation, malgré tout, que c'est outrecuidant que je puisse penser comme ça. Si j'ai du goût pour les choses de la poésie, je formulerai quand même jamais, moi, le fait que je suis un poète, tu vois ça. Et si plus qu'une affection, une authentique imprégnation culturelle, fondamentale, historique, je veux dire presque génétique, au moins, tu vois, des choses de l'Ovalie, ce mot étrange. Vous l'avez bien défini, madame, dans la route, en prenant appui sur celui qui l'installe dans la langue française, mot académique, Michel Serres, le mot Ovalie, tu vois, un univers, l'univers à la fois moral, sociétal, culturel, évidemment sportif, autour d'un jeu qui s'appelle le rugby, quoi. Voilà, j'aurais pour ce mot-là la percussion salutaire, quoi. Quand ça m'arrive dessus, ah, ça me fait du bien. Et non, incontestablement, j'ai nourri longtemps quelques scrupules à être dans un univers qu'on pouvait trouver un tantinet clos. Toi, en plus, tu avais ajouté historiquement, il fut machiste, tu vois.
On y reviendra.
Parce qu'on peut pas rester indigeste.
Absolument.
Un constat, quoi, tu vois.
Le rugby, il se trouve que vous êtes bien né d'une certaine façon, Daniel Herrero, parce que le rugby, c'est l'un des rares emblèmes identitaires de la ville, non pas où vous êtes né, mais dans la ville où vous avez grandi, Toulon, et vous n'y êtes pas né.
Ah non, j'y suis pas né, je suis arrivé, j'avais quelques mois, oui.
Voilà, donc dans la ville, en tout cas, où vous avez grandi, c'est même le fleuron de la ville, le rugby. Et donc Toulon, où nous n'avons pu aller, et donc c'est Toulon qui est venu à nous, grâce à vous. Donc parlez-nous un peu de Toulon.
Oui, alors, en ouvrant la réflexion comme ça, ou la sensibilité autour du nom de la cité, et en conséquence de ma route, moi, dans cette cité-là, j'y suis arrivé, j'avais une petite année, même pas. Tu vois, maintenant, je commence à être titulaire d'une certaine maturité, et j'y suis resté assez longtemps. On pourra dire, sans que l'image soit flagorneuse, que c'est mon port d'attache. Mais le fait que ce soit un port, ça va quand même être assez conséquent dans la façon dont je vais vivre, moi, cette cité, ça. Et toi, tu le définis en disant, quand même, cette cité-là, elle a un emblème, un fleuron, une espèce d'activité comme ça qui domine, qui occupe la pensée du monde, tu vois, de fait, le rugby, quoi. De fait, c'est sans doute un tantinet vrai, mais c'est quand même plus conséquent. La ville de Toulon, c'est un port de guerre, ça, tu vois, en un. Moi, j'y suis arrivé avec cette première percussion, de fait. Mon père est un petit vigneron espagnol, de l'Hérault. Il est recruté pour venir jouer à la Seine. C'est la banlieue de Toulon, c'est dans la rade de Toulon. La rade, c'est fermé, c'est protégé par une petite montagne qui s'appelle le Faron. Comme c'est presque fermé, la rade de Toulon, on y a mis, je sais pas, le 14, on y a mis la marine de guerre, la royale. Il y a 3 siècles, on a pensé que pour défendre le pays, tout au moins la zone méditerranéenne, il fallait mieux qu'on ait quelques bateaux qui soient un peu turbulents au cas où ça se gâterait, tu vois. Et ils ont mis la marine de guerre. Là, et ça, depuis 3 siècles, ça prend à la fois un pouvoir, bien sûr, mais ça imbibe, ça imprègne, ça crée comme ça un inconscient collectif, une manière d'être. Toulon, c'est une ville de marins. Elle a longtemps vécu, cette ville de Toulon, la colonisation, l'offense presque fait son monde. Tu vois, elle est allée à l'extérieur conquérir à la maison. Elle s'est peu préoccupée. La seule fois où on a eu franchement besoin d'elle, c'était en 42, tu vois, et la flotte de Toulon s'est sabordée, manquée. Tu vois, manqué. Toulon, la tonique, l'incisive, la vaillante, tu vois, s'était couché. Toulon, d'ailleurs, de Morin s'est couché une paire de fois. Et ça peut me toucher un peu, hein. Toulon s'est couché dans son histoire 2 fois. Une fois contre les Anglais, ce qui est toujours pénible pour un rugbyman contemporain. Une fois, nous étions là, à l'époque, j'allais dire, napoléonienne. Toulon avait refusé un peu la République d'après la Révolution. Toulon s'était donné aux Anglais. La ville de Toulon, bannie par la Première République, tu vois, il a fallu que ce soit Bonaparte, jeune lieutenant, qui est délégué quand même par la Première République, est venu libérer Toulon. C'est dans les faits de gloire de Bonaparte, quasiment le premier majeur. Juste pour dire que Toulon, ma foi, il y a eu des turbulences autour de, j'allais dire, de sa marine de guerre. Et tout ça, ça va quand même générer quelque chose d'un peu original dans un inconscient collectif. C'est que c'est une ville qui est en périphérie, qui est quand même chargée de défendre la France, et qui malgré tout a toujours un peu la sensation que la France ne l'aime pas, ou qu'elle est un peu à côté, qu'elle est un peu marginal, ça va générer presque une paranoïa, tu vois, quand on est de Toulon.
À ce point.
Oui, un peu. Le rugby, par exemple, qui est fait conséquent, le rugby, non, il va s'installer. Il, quasiment, c'est les militaires qui l'apportent. La terre de Provence est une terre blanche et sèche. Il n'y a pas d'herbe. Nous, toute ma jeunesse sportive, c'était que des terrains râpeux, des terrains qui m'écorchaient les genoux. Il n'y avait pas de raison que ce jeu-là, inventé par les Anglais en plus, tu vois, nous arrive sur cette terre-là et qu'il devienne un espace comme ça florissant de l'aventure toulonnaise. De fait, quand même, les militaires l'apportent. Ils viennent de la France entière, un peu du sud, sans doute de Toulouse. Ils nous apportent ce jeu par l'intermédiaire des marins, quoi, tu vois. Les enfants de la vieille ville de Toulon, là où il y a un peu l'âme profonde, tu vois, qui voit ce jeu arriver, nous sommes là en 1900, au tout début du 20e siècle, et voit un jeu où on peut se bourrer, se bourriner, se rentrer dedans, se bagarrer, se percuter, se mâcher un peu, tu vois. Et ils se disent, mais c'est autorisé un jeu où il y a autant de rudoyance comme ça? Ma foi, il semblerait que les gens qui jouent un peu dans l'arsenal, tu vois, ou dans la marine de guerre, et les gens attestent que, effectivement, ça peut être un jeu où il peut y avoir comme ça une grande liberté de corps et d'affrontement. Et les mecs de Toulon, ils disent, mais si on fait une équipe, on pourra jouer contre Paris. Tu vois, quelque chose, si on fait une équipe avec un peu les gens d'ici, tu vois, un peu les rudes d'ici, un peu nos portefaix, un peu nos dockers, un peu les gens de là, on pourra jouer contre Paris. Donc, sans aucun doute, on crée le lendemain, on crée un club. Dans les temps immédiats, on crée un club où l'âme rebelle un peu de Toulon, pas tout à fait à sa place, une âme militaire qui ne voit pas forcément la meilleure. On a le cœur méditerranéen fait un peu à la souplesse, un peu à la jovialité, un peu à la convivialité, et notre image militaire, ma foi, qui fait aussi une gloire de la cité, mais quand même cette image-là, elle nous trouble un peu. Le rugby va être un espace, mais alors très vite, alors là tu avais raison, le jeu au début du 20e siècle, oh bien, on peut s'y retrouver. On peut s'y retrouver sur notre caractère un peu vindicatif, un tantinet rebelle, pas forcément très fin. Avouons même une forme de... un peu le goût de l'excès, l'excès du rude, qui sera le bagarreur, l'excès de celui qui parle fort, qui sera la grande gueule, l'excès de goût quand même de faire un peu mal à ceux qui veulent nous faire de la misère.
Vous faites la grimace en disant ça, hein.
Oui.
On sent que c'est
non, mais
porté,
tu vois,
hein.
L'idée aussi que, non, ça nous voit pas bien qu'on nous tire les oreilles. Hein. Quelque chose d'une petite paranoïa de fond, comme ça. Tu vois, bon, voilà, pas plus, pas moins. Mais quand même, ça va grandir. Et alors, ça va prendre le cœur de la cité, et ça va faire un fleuron. Alors, et, ouais, ça va se mettre en proue de la fierté toulonnaise. Il n'y aura pas d'autre sport à Toulon. On est au bord de mer, on n'aura rien d'autre. On est des rivages, on aura la pétanque. Quoi, tu vois. Mais on aura le rugby. Sur un siècle durant, on aura le rugby. Et moi, j'aurai le privilège d'y mettre le nez très tôt dans cette aventure-là.
Quand je libère ma mémoire, écrivez-vous dans un livre d'entretien que vous avez fait avec José Lanzini qui s'intitule « Mes Méditerranées », où on retrouve la rade de Toulon. Quand je libère ma mémoire, il me semble que ma zone enfance est assez longuette. Alors je ne sais pas si vous êtes aussi emphatique, Daniel Herrero, sur Puisserguier, où vous êtes né le 19 juin 1948, que sur Toulon, mais est-ce que le premier souvenir d'enfance, si je vous parle, je ne sais pas, d'une Madeleine de Proust liée à votre enfance, c'est Toulon? Où c'est la garrigue de Puisserguier?
Alors là, ça me, Ça me va au cœur, cette interrogation, tu vois, parce que de fait, je ne l'ai jamais franchement très solutionné, ou alors je ne l'ai jamais vraiment appréhendé comme étant une problématique qui mérite une solution.
Il faut vraiment que je comprenne. C'est une mauvaise question.
Pourquoi je suis le plus sérieux? Alors, de fait, je suis fils d'immigrés espagnols, moi. Mes 4 grands-parents sont des Espagnols illettrés, tu vois. Ils sont venus après la Première Guerre mondiale, mes 4 grands-parents. Ils sont issus d'un pays qui se délabre, l'Espagne, qui est dans une misère profonde, comme ça, à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Eux, ils sont issus de la misère. Eux, les 4, hein, pas un, pas deux, pas trois, les 4 sont mis sur la route à l'âge de 7, 8 ans, 10 ans. On les expulse de leur chaumière. Ils sont du pays catalan, d'Andorre, du côté de ma mère. Ils sont du pays presque andalou, du côté de mon père. On les met sur la route et ben, ils iront de ferme en ferme, de village en village. Ils reviendront quasiment plus au village, tu vois. Enfin, ils vont couper quasiment, ou même un de mes grands-parents, quoi, celui avec qui je vais avoir une longue histoire d'amour, quoi. Ils sont très vite scissionnés, fracturés, fissurés, tu vois, par l'abandon, en fait, quoi. Ils passent les Pyrénées, ils se retrouvent sur la terre du Languedoc. La terre du Languedoc, elle héberge l'espagnol depuis des lustres, depuis des millénaires, quoi, tu vois. Et là, ils vont faire la vendange, puis après, ils se feront bûcheron, puis après, ils feront la vendange du bûcheron, puis après, ils iront ramasser les figues, puis après, ils s'occuperont un peu des olives, puis après, ils s'occuperont un peu des chevaux. Voilà. Et bon, ils sont dans ces petits travaux de la terre qui hébergent comme ça les immigrés, quoi. Voilà, et eux resteront espagnols jusqu'à leur terme, jusqu'à la vie, quoi. Et un de mes grands-pères, les deux, mais enfin, au moins un, il se fera attraper, il a 20 ans, on le ramènera à la frontière. Là, nous sommes... il y a longtemps, hein, tu vois, on le ramènera à la frontière, on l'abandonnera, mais il a déjà un peu des liens avec ma grand-mère au village. Il va revenir 3 ans après en passant la frontière de la nuit, tu vois. Et donc, il reviendra après 2 expulsions, il reviendra sur la terre de France, du Languedoc, comme ça, et jusqu'à la fin de sa vie, tu vois, jusqu'au désarroi de la mort, quoi, tu vois, qu'il appréhende avec une certaine lucidité quand même, et une certaine clarté de bombe, quoi, tu vois, c'est mon heure, je pars vers les étoiles. Il ne parlait pas français, il parlait une espèce de patois espagnol. Quoi. Et sur son lit de mort, sa dernière phrase, ce qui me rend encore la colère aujourd'hui, quoi, il va dire « Attention, les gendarmes sont pas loin. Méfie-toi, ça veut dire « Méfie-toi, les gendarmes sont là. » Sur son lit de mort, quoi, il a encore l'idée qui est aux genèses de sa vie. Quoi, tu vois. Bon, enfin, bon, donc ça, c'est mon grand-père. Mes parents naissent dans ce village. Mais mes parents, ils naissent donc, sur la terre de France et eux seront naturalisés à 18 ans. 18-19 ans, quoi. Et mon père, lui, alors ça sera un peu étrange, mon père, il sera naturalisé, je pense, à 19 ans, mais c'était la veille de la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Comme s'il y avait une espèce de trafic des gens du village pour le naturaliser le lendemain, tu vois. Espagnol, il n'aurait pas pu partir à la guerre le lendemain. Bon, enfin, bon, peu importe. Et ce village-là, et le village, alors, le village d'accueil des anciens, tu vois, c'est le village où pousse une racine, tu sais pas, je sais pas trop, moi, et j'ai toujours un peu beaucoup de sens. Tu vois, parce que je me sens totalement méditerranéen, enfant du sud, quoi, ça c'était un sud. Mais en même temps, il y pousse une racine. Je sais pas, moi, si mes origines sont plus fortes que mes racines. Tu vois, mes origines, moi, je suis de la mer Méditerranée, je suis de par là, je suis de ces terres-là, je suis de cette sensibilité-là. J'en aime le langage, j'en aime les tonalités, j'en aime les relations humaines, quoi. Voilà, je me sens de là, quoi. Après, bon, la terre d'accueil, là, de mes grands-parents, elle est effectivement garrigue, elle est pauvrette, voulant dire, elle est assez pauvre, quoi, tu vois. Et là, mon père et ma mère donc me mènent à Toulon quand moi je n'ai qu'un an parce que mon père va jouer au rugby. Toulon, il n'y a que 300 bornes, mais enfin c'est quand même déjà sur un autre lieu de la Méditerranée, le fameux port de Toulon, quoi. Et mes parents partent là, moi je suis tout petit, mais dès l'âge de 2 ans, on me met dans le train le premier jour des vacances, tu vois, c'est d'ailleurs le 1er juillet, quoi. À l'époque, il y a 3 mois de vacances complètes, c'est-à-dire à l'époque, il y avait aussi le mois de septembre, et on me met dans le train, on dit à la voisine du train, c'est le petit, il y a son grand-père, son papé qui l'attendra sur le quai de la gare à Béziers, quoi, tu vois. Et à Béziers, la dame qui était ma voisine que je connaissais pas, elle me dépose sur le quai, mon papé m'attend. Ah, puis c'est rien. Et là, je vais faire toutes mes temps de joie d'enfant, mes temps où mon cœur bat normalement comme un enfant, quoi, je vais les faire dans ce village-là. Je vais les faire avec mon grand-père, qui est un immigré espagnol, qui parle peu français.
Vous appreniez l'espagnol, du coup, avec lui?
Non.
Lui, la communication passait par
oui,
autre chose.
Oui, lui, il avait un patois que je pouvais comprendre parce qu'il imbibait la famille. Il avait les quelques mots de base qui me faisaient quand même comprendre. Il parlait ce qu'il appelait, lui, un François, tu vois, à peu près. Mais je n'ai jamais souffert d'aucune incommunicabilité. Non, mon grand-père me parlait avec son cœur et c'était largement suffisant. Honnêtement, hein, c'est pas une bouffonnerie, quoi. Hein. Tu vois, voilà. Lui, il a un cheval, il s'occupe du cheval, il va à la vigne tous les jours de l'été. Voilà. Et là, je passe à un temps qui est un temps d'éveil à la gentillesse du monde. Tu vois, la gentillesse du monde. Mon grand-père est gentil. Mon grand-père, il aime la nature. Mon grand-père, il aime les animaux avec qui il vit. Mon grand-père, il est rustique. Tu vois, il n'a pas de... Mon grand-père, il ne sait même pas que le rugby, ça existe. Oui, je suis entendu parler, il s'en fout, comme un qui vient. Mon grand-père, il aime que... je sais pas le définir, mais que les choses qui font du bien au cœur, sans qu'on se bouge trop le cul, avec ta seule belle âme. Tu vois? Tu travailles, c'est une belle valeur. T'es gentil, c'est mieux. Tu vois, tu nourris ta famille, belle valeur. Mais t'es capable de donner, bien mieux. Tu vois, tu peux contempler le monde pour t'en servir, hein. Mon grand-père, dans la garrigue, il met des pièges, hein, tu vois, il met la main dans le petit trou du terrier où tata, il nous ramène un lapin de temps en temps, tu vois, il va ramasser un peu le raisin, des fois, dans la vigne du voisin, parce que lui, il a que du raisin, pour faire du vin. Tu vois ça? Entre guillemets. Mais c'est toujours que dans une perspective de beauté du monde. Et moi, j'ai 3 ans, 4 ans, 5 ans, et je passe ces étés-là comme une récompense, quoi. Comme une récompense à l'enfance. Voilà, comme une récompense. Et je sais que ma famille toulonnaise, tu vois, dans la vie sociale, est orientée vers le travail, vers, sans doute vers le sport, qui va quand même être pas ma porte de sortie, mais mon impulsion dans le monde. Mais la beauté de l'âme d'un grand-père, tu vois, c'est quand même assez décisif sur mon trajet relationnel au monde, moi. C'est de là que ça part, quoi. C'est de là que ça part. Et alors, bizarrement, lui, il parlait peu, tu vois. Mais il parlait peu, tu vois, un peu... je peux m'interroger si je suis vraiment de la lignée, quoi. Tu vois, juste pour te dire que mon grand-père, donc c'est le père de ma maman, tu vois, et en conséquence, ma maman, bizarrement, ma maman aimait les mots. Mon père, lui, qui sera un rugbyman, qui est d'une autre famille espagnole, mon père, lui, n'aimait que les matchs. Donc mon grand-père, qui était un taiseux, mais qui aimait le monde, par l'intermédiaire de ma maman, m'a transmis les mots, je pense.
Il en manque une dans le paysage, il en manque plein encore, ouais, un, mais il en manque une quand même. À côté du papé, il y a la mamée.
Absolue.
Dolores.
Absolue. Oh, alors la mamée Dolores, alors là, c'est, je sais pas, tu vois, la seule évocation est émouvante. Pour dire que la trace est de l'ordre de l'indélébile, tu vois, et en même temps de l'ordre de la profondeur. Tu vois, c'est pas une scarification balourde sur mon âme, ma mamée. Tu vois. Mais alors, ma mamée, c'est une percussion, moi, affective, émotionnelle, évidemment, de ma petite enfance. Mais ma mamée, c'est une vieille dame. Mais j'ai appris plus tard que quand moi j'étais petit, elle n'était pas si vieille que ça. Tu vois. Mais peu chiant, ma mamée, c'est la personne âgée. Ma mamée, c'est une vieille espagnole. Ma mamée, elle est déjà en deuil d'un de ses enfants. Tu vois, elle ne porte que du noir. Ma mamée, elle parle un peu l'espagnol. Tu vois. Ma mamée, elle me vient de l'âme profonde de l'Espagne, tu vois, et elle me vient en même temps, non pas parce qu'elle s'appelle Dolores, parce que ça je le comprends pas de suite, mais elle le porte. D'où même à partir d'elle, j'ai pu penser parfois qu'aucun de nos prénoms, y compris de nos patronymes, hein, mais aucun de nos prénoms n'était totalement le fruit du hasard. Tu vois. Ma grand-mère, moi, s'appelle Dolores, ce qui veut dire donc douleur, tu le sais, et c'est au pluriel et c'est en espagnol. Et ma grand-mère le porte ça, et elle porte ça comme un fardeau de vie, j'ai la sensation, moi, tu vois, un minot. Mais là derrière, elle sait aussi sans aucun doute la beauté de la vie. Elle a connu, je n'ose pas dire que la douleur, que la souffrance, que l'oppression masculine, que les machismes régressifs, non pas des balourdises humaines, mais de l'histoire d'une civilisation, quoi. Tu vois, oh, voilà, elle est une dame de la maison, ma mamie s'occupe de la maison, enfin comme tu peux l'imaginer. Ma mamie est croyante en même temps, ce qui pour moi est quelque chose d'un peu de choquant. Tous autour de moi, mon grand-père, lui, si je te le dis, j'aurais presque honte dans une émission qui se voudrait, malgré tout, à petit caractère culturel. Tu vois, mon grand-père, son irruption base, non même pas dans la colère, dans la première impulsion d'irritation, tu vois, que moi je dirais putain. Tu vois, mon grand-père, il disait, mais cagundeo, tu vois. Je peux pas te le traduire.
Parce que, c'est dommage parce que...
Je te le traduis. Alors, deo, ça serait Dieu, deo, Dieu, quoi, tu vois. Et si tu fais un petit effort, je répète, c'est difficile. Tu vois, ça veut dire, grosso modo, je défais que sur Dieu, quoi, tu vois. Et si je le dis quand même dans l'élan et dans le souffle base, je chie sur Dieu, tu vois, il y a quand même pas irruption plus anticléricale que celle-là, quoi, tu vois. Bon, le papy, il avait ça. La mamie était croyante. La mamie, elle allait voir le bon Dieu. Putain, la mamie, elle m'interroge, même Mino, c'est quoi cette route de la mamie qui le matin à 10h va à l'église, tu vois, qui était juste à côté de notre maison. Bon, enfin, voilà. Et la mamie, elle me donne, moi, la sensation que dans le système de la famille, de la vie sociale, elle porte quand même tout ce qu'il y a pas de plus épanouissant, quoi. Elle travaille, elle fait la cuisine, elle nous nourrit, elle le fait bien en plus, tu vois, et je pense qu'elle le fait avec cœur. Mais la mamée, elle s'éclaire dès qu'elle va dans la solitude de la nature. La mamée, elle est un peu sorcière. Déjà, dans son allure que je t'ai définie, tu pourrais pas se le voir arriver, tu vois. Mais elle est pas prognate de la mandibule. Tu vois. Elle est pas prognate de la mandibule. Non, non, je suis une petite espagnole flétrie, tu vois. Mais là, ma mère, elle va dans la nature, mais je vais la prendre plus tard. Bien que, Je sais qu'à l'âge de 3 ans, supposons-le, je fais une jaunisse. C'est la mamie qui me soigne. Je sais qu'à l'âge de 18 mois, mais là je ne me rappelle pas évidemment, à l'âge de 18 mois, je ne sais pas bien pourquoi, mes parents, mon père qui n'a pas un rond, il est obligé d'aller travailler à côté de Béziers, au bord de la mer, un petit village qui s'appelle Valras, il n'a pas de rond, pas un rond, les trois enfants, moi je viens de naître, quoi. J'ai 10 mois. Tu vois, on va au petit village à côté comme ça, où il y a des pêcheurs, ça s'appelle Valras, t'as 10 bornes de Béziers sur bord de mer, quoi. Voilà, mon père, il va faire la traîne. J'entends ce mot, je l'ai entendu un peu après, moi. La traîne, c'est, tu vois, t'as des pêcheurs qui vont au large, ils mettent des filets, et puis après, de chaque côté, d'une centaine de mètres, on tire les filets, des hommes qui tirent les filets, comme ça, tu vois, qui viennent au bord de mer, sur des plages de sable, et qui ramènent donc du poisson, quoi. Mais mon père, il est que traîne, je sais pas comment on disait le nom, quoi. Il ramène la traîne, et il n'a pas le droit de prendre des poissons. Lui, il est manœuvre. Moi, je fais 18 mois, c'est toujours pour parler de la mamie. Mais à la sortie, mon père, quand il fait la traîne, il n'a pas le droit d'avoir des poissons qui sont dans le filet. Il ne peut prendre que des poissons qui sont en dehors du filet. Donc, dans ma famille, moi, j'ai 10 mois, tu vois, il va faire 3 ou 4 mois comme ça, mon père, qui était à 10 kilomètres du village natal, quoi. Et là, on mange que du poisson. On mange que du poisson, Et rien d'autre. Un peu de riz, peut-être, je sais pas, la mamie. Que du poisson. Et moi, je me détraque. J'ai dit, moi, je me détraque. D'après ce qu'on me dit, des anciens, quoi. Je me détraque. En l'occurrence, je pense que je me détraque par excès d'iode. C'est ce que disaient les anciens. Je sais pas pourquoi. J'ai devenu tout bleu ou tout vert ou tout jaune. Et on appelle la mamée. Parce que la mamée, elle est pas sorcière. Elle connaît les plantes. La mamée arrive, et l'histoire est vraie. La mamée arrive 3 jours après, que tu vois, quand même, je suis un peu détraqué, moi, voilà. On pourra dire probablement autour du niveau intestinal, tu vois, un peu. Voilà, bien détraqué, et à la sortie, la mamée, elle arrive, elle descend d'un vieux bus, tu vois, elle arrive avec un panier plein d'ail et de plantes. La mamée va me faire manger de la soupe à l'ail avec des petites plantes pendant une semaine, quasiment. Je n'ai que 10 mois, quoi. La mamée me retape. La mamie me retape, grosso modo. La mamie n'avait que du bonheur dans la campagne. La mamie connaissait les plantes. La mamie, bizarrement, espagnole, est un peu, comment on pourrait dire, initiée par je ne sais qui. Tu vois? La mamie ramassait les plantes, elle les faisait sécher, puis après elle les écrasait, pour que jamais personne ne les reconnaisse. Tu vois? Et moi, je grandis un peu avec ça. Donc, elle me sauve quand je suis petit, tu vois ça. Et je la vois, après, dans ces étés que je passe chez mes grands-parents, avec mon papy, le cheval et la campagne, mais je la vois aller à la grappille du monde dans la campagne, en parlant au monde. Bon, grosso modo, la mamie ramasse les escargots. La mamie ramasse les poireaux sauvages. Tu vois, la mamie ramasse les plantes qu'elle renifle, qu'elle me fait un peu renifler, mais qu'elle planque. Là, tu vois, la mamie ne s'arrête jamais. Elle va dans la campagne tous les jours de l'été. Et puis, bien sûr, les choses simples, les premières figues, comme les premières mûres, tu vois. Et cette dame que je vois s'illuminer du monde, qui l'opprime et l'oppresse et la comprime, tu vois, et la broie de fait, tu vois. Mais elle garde la force d'amour quand même, de la famille, tu vois. Ma mamie, c'est une très bonne dame, et ses enfants, évidemment, quoi. Mais d'elle, j'ai la mamie est heureuse de sa liberté dans ces espaces-là, quoi. Rien. Et ça m'est joyeux, de fait. Ça m'est joyeux. J'ai un papé qui parle pas, tu vois, qui s'occupe du monde avec la seule gentillesse. J'ai une mamie qui, elle, est aussi, honnêtement, pas dans le champ de la parole, qui est une assez belle contemplative de la nature, simplement, avec pas plus, pas moins que si on observe bien le monde, si on fait bien gaffe à ce qu'on fait, comme ça, elle a toutes les libertés. Sans doute, son imaginaire n'est fleuri, au sens propre du terme, ou n'est rayonnant que dans l'espace naturel. Après, dans la maison, elle est l'absolu symbole de ce que sera ma vie, moi, de la femme docile.
Et Archer, Émile et Yvonne, qui sont vos parents, Daniel Herrero, est-ce qu'on a à peu près le même schéma, c'est-à-dire le père taiseux, qui parle pas beaucoup, qui lit l'humanité dans son coin, qui travaille la journée, mais qui va faire du rugby le dimanche, c'est-à-dire il vous emmène, vous avez des souvenirs, vous allez nous raconter. Et puis une mère qui, vous le disiez tout à l'heure, aime les mots.
Oui, alors là, c'est ma famille, c'est mon cercle. C'est mon bain, quoi, mon bain de...
Avec les frères et sœurs, quand même.
Oui,
deux filles, 4 garçons, hein, dans la famille Herrero.
Oui, mais 20 ans, surtout, entre le premier et le dernier. Et moi, au milieu, le troisième. C'est-à-dire que nous avons une fratrie originale, hein, qui est longue dans l'espace-temps, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai un frère aîné qui a 10 ans de plus que moi, j'ai un petit frère qui a 10 ans de moins. Donc, cela, je ne les vois pas dans tout mon trajet. Je ne les vois que quand je serai grand. Tu vois, sinon je les vois pas. Mon frère qui est au-dessus de moi, le second, moi je suis le troisième, il a 5 ans, il est loin déjà. Et ma petite sœur qui est derrière moi, elle est à 5 ans derrière moi. Donc nous avons une fratrie qui fait une famille originale. Elle n'a pas les mêmes liens des proximités d'enfance. Tu vois ça?
Ok.
Mais mon père, donc, il est petit rugbyman au village.
Petit rugbyman?
Oui. Par la taille, il n'est pas très grand, mon pater. Ma mère est très grande, moi. Ma mère mesurait 1,72 m, ce qui, à l'époque, déjà pour une Espagnole, c'était grand. Et tu vois, et dans ces générations-là, c'était même très, très grand pour une dame. Mon père était de cette taille-là. Bon, dans le village, les hommes sont, ils travaillent la terre et ils travaillent la vigne. Ils sont tous vignerons. Quelques-uns ont des propriétés, de la grande majorité de ce village-là. Comme dans tous les villages languedociens, tu vois, qu'on a, entre les Corbières, les Raux, là, tu vois, entre Narbonne et Montpellier, là, ce monde-là. Là, ils sont tous vignerons. Mon père joue au rugby au village parce qu'il n'y a que du rugby. Il est pas mal. Tu connais l'anecdote peut-être, enfin je sais pas, une que je pourrais te raconter. Mon père, il joue au village, il est d'une famille où on parle pas beaucoup, lui il est taiseux complet, mais complet. Bon, c'est pas qu'il maugrait, il parle quand même, mais peu, hein, peu. Mais alors lui, quand il met le nez dans le champ ovale, oh, mais tu vois, alors lui, quand il met le nez autour du ballon, tu vois, il y a l'éclairage du cœur. Il a quelques talents, sans aucun doute. Mais enfin, quand même, il joue 10 ans au village. Avant que je naisse, moi. Dans les 10 ans où le padre joue au village, tu vois, le jeu de rugby, c'est un jeu où on joue à 15, c'est un jeu où il y a un grand nombre de joueurs, c'est le jeu où il y a le plus de joueurs sur un terrain du monde, hein. Tu sais ça, du monde. Il n'y a pas un jeu où il y a plus de 15 personnes au monde. Mon père donne dans ce jeu quand même un grand nombre, avec donc grande socialisation, par définition. Tu vois, 15 à l'intérieur et 15 avec les autres. Mon père, on dit, tu vois, que dans les 10 ans où il joue au village, en 10 ans, il fait une passe. Dans le jeu le plus sociable du monde.
Oui, comme vous allez nous l'expliquer demain, ouais. Dans la deuxième émission d'Daniel Herrero, il se trouve que c'est le jeu le plus sociable du monde.
On en parlera.
Donc la passe, elle est importante.
Voilà, le père, il en fait qu'une. C'est une anomalie, c'est tellement peu que c'est une suspicion. Le père est totalement asocial. Le mec, il fait qu'une passe, tu l'enfermes, tu l'embastilles. Tu vois, même moralement, c'est pas possible. Le mec, il joue au rugby, il a fait une passe, le padre. Et même, plus tard, quand j'ai appris ça, moi, que le père faisait pas de passe, quoi, tu vois. Je suis même pas allé voir les anciens du village, qui étaient déjà très âgés, tu vois, quand moi j'ai 10, 12 ans, tu vois, que je rentre un peu dans cette légende, non, pas mythe non plus, tu vois, mais quand même, influence, comme ça, bon, effervescence familiale. Je vais un peu voir les anciens et les anciens, et j'en vois 2 ou 3, peu importe les noms, je les vois un peu. Et il y en a un qui me dit, ah ouais, ton père, il avait fait qu'une passe. Et d'ailleurs, quand il avait fait la passe, on lui avait dit, bon, tu aurais pu garder la balle.
Mais on disait aussi, Herrero, il est vaillant.
Voilà.
Et ça, c'est important pour vous.
Voilà. Mon père, il est peu sociable, il joue pas très bien. Enfin, il joue pas mal, mais il fait pas de passe. Il est pas dans l'échange, il est pas dans la construction du jeu, il est pas, tu vois, dans le volume socialisant de la partie les plus riches de cette pratique sportive, quoi, tu vois, qui est le groupe, la passe et l'échange et la construction. Non. Mais par contre, coup d'envoi du match, quand l'adversaire attrape un ballon comme ça, qui dégage le plat de côte, tu vois, mon père qui voyait ça, il disait, laissez-moi le, tu vois. Mon père, il avait du goût à lui rentrer dedans. Mon père était rude à l'impact. Tu vois, il était ardent, hardi. Moi, je finis par entendre tout ça comme étant mon père est vaillant. Oh, ah, putain. À ce mot, il m'a abasourdi de bonheur.
Merci, Daniel Herrero. On a bien les traces que vous ont laissées les anciens et la terre sur laquelle vous avez grandi. De quoi passer à l'émission de demain, la deuxième, pour nous parler du monde, de l'ovalie, de l'esprit, du jeu, auquel d'ailleurs vous avez consacré un ouvrage, et pas qu'un seul. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Fabien Gosset, réalisation Félicie Faugère, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.